Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les sujets qui ont fait l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, trois thèmes ont été retenus pour vous, à savoir célébration le 30 juin 2011 du 51e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans notre deuxième thème, nous ferons une évaluation des opérations de révision du système électoral. Et enfin, nous parlerons de l'épidémie de choléra déclarée par le ministre de la Santé publique dans les provinces de Kinshasa, Équateur et Bandundu. Plusieurs décès ont déjà été enregistrés. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour le débat, à savoir Fidèle Moussangou, coordonnateur du journal Le Phare, un quotidien qui parie à Kinshasa. Bonsoir Fidèle.
Bonsoir madame.
Saïlé Mbalanga, éditeur, directeur responsable du journal Topo, un hebdomadaire qui parie aussi à Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Clément Mangoubou, qui intervient depuis la province orientale, il est éditeur responsable du journal Mwangaza. Bonsoir Clément.
Bonsoir.
Merci de nous suivre sur toute étendue de la RDC sur la fréquence FM, et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioaucapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant de commencer notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux chinois pour voir comment la presse écrite a analysé et commenté les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Sacher.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa ont entre autres fixé leur projection sur la commémoration de l'indépendance de la RDC, de la résurgence de l'épidémie du choléra dans certaines provinces du pays, et enfin du bilan de l'opération de révision du fichier électoral. Concernant le premier sujet, l'Observateur titre 51e anniversaire d'une indépendance mal assumée. Ce journal fait remarquer qu'à un demi-siècle, plus un an d'indépendance, on ne voit pas très bien les avancées que cette République a faites. La vie qui consacre aussi sa manchette à la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance de la RDC estime que c'est une occasion pour le chef de l'État de faire le bilan de cette législature. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la résurgence de l'épidémie du choléra à Kinshasa, qui prend sur ce sujet la référence plus signale la peur qui s'installe à Kinshasa suite à la résurgence du choléra, une maladie qui survient après avoir frappé de plein fouet la ville de Bandundu avec plus de 50 morts. Le palmarès de son côté rapporte que le choléra est déjà aux portes de Kinshasa avec 6 cas déjà enregistrés. Mais cette maladie dite de Mensale a déjà emporté 53 personnes dans la ville de Bolobo au Bandundu où on compte encore 991 personnes atteintes. Terminons cette revue de la presse en parlant du processus électoral en RDC. Le potentiel rapporte qu'à quelques jours de la fin de l'opération de révision du fichier électoral à Kinshasa, le président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda, sensibilise la population chinoise à s'enrôler massivement. Le FAS qui revient sur ce sujet indique pour sa part qu'avec ce déblocage de 20 millions de dollars américains, Kinshasa a financé ses élections à 75%. Le confrère apprend par ailleurs que la contribution totale du gouvernement congolais dans ce processus électoral passe de 62 à 80 millions de dollars américains. Forum des As, quant à lui, met l'accent sur la prolongation de 10 jours pour l'enrôlement accordé par la CENI à 6 provinces, notamment le Nord et le Sud-Kivu, l'Équateur, le Kasaï oriental, le Bandundu et la province orientale.
Merci Samuel Sachar pour cette revue de presse. Fidèle Moussangou, vous êtes coordonnateur du journal Le Phare, un quotidien qui parie à Kinshasa. Un mot sur la revue de presse que nous venons de suivre.
C'est une revue de presse comme on en fait régulièrement dans tous les organes télévisuels, la radio, comme la télévision, c'est fait par un professionnel ou sans pour
vous. Céline Balanga, vous êtes éditeur et directeur responsable du journal à propos un hebdomadaire qui paraît avec Kinshasa. Parmi les sujets qui ont fait l'actualité pendant la semaine, il y a aussi la prolongation du mandat de la MONUSCO.
Oui, à chaque occasion, les décideurs politiques se ressaisissent ensemble avec les gens de la MONUSCO, même les gens puissants pour dire que voilà, au Congo, il y a encore des problèmes. Et nous faisons une rallonge d'une année en faveur de la MONUSCO. Tant mieux, hein, parce que ça va nous aider. Franchement, comme il y a certaines poches de résistance à gauche et à droite, que la MONUSCO sera là pour apporter un pitch et que nous nous sommes en paix.
Clément Mangoubo, vous intervenez depuis Kisangani, dans la province orientale. Vous êtes éditeur responsable du journal Mwangaza. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Oui, à Kisangani, l'actualité la plus aiguë, c'est la grève décrétée unilatéralement par les scientifiques de l'université de Kisangani, à ce sujet du système de travaux qui entendent de boycotter les examens qui commencent le lundi 4. Ils revendiquent le paiement de 2 mois, mai et juin. Ils revendiquent également la mécanisation des professeurs et autres scientifiques au grade exact, mais aussi la mécanisation des nouvelles unités.
Merci Clément Mangoubo, premier terme de ce soir, célébration du 51e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le défilé national a eu lieu à Lubumbashi, au Katanga. À la place Moïse Tshombe, le président de la République, y a assisté entouré de membres du gouvernement, ceux du Parlement et des autorités de l'armée et de la police. Civils, militaires et policiers y ont pris part ainsi que des civils. Dans son discours, Joseph Kabila a affirmé que la situation sécuritaire est stable sur l'ensemble du pays. Malgré quelques poches d'insécurité, le président de la République se dit satisfait des progrès réalisés sur le plan social, économique et des infrastructures, malgré que beaucoup de défis restent encore à relever. On écoute Joseph Kabila dans ce propos recueilli par Colin Monaga.
La croissance n'a pas généré, comme l'espérions, un niveau plus élevé d'emploi. En matière d'énergie et de surcharge en eau potable, et les défis persistent encore. Aussi pour 2011, d'importants projets vont y être réalisés. Il s'agit notamment du début de la construction de la deuxième ligne de transport d'électricité d'Inga jusqu'à Kinshasa, la construction de centrales de Zongo 2, de Kakobola et de Katende, et en ce qui concerne la desserte en eau potable. Plusieurs projets ont été réalisés. D'autres en cours de réalisation renforceront la capacité de production de nos usines de captage et de traitement d'eau. Il est aussi évident que le défi auquel nous devons faire face sont multiples et ne date pas d'aujourd'hui. Il nous faudra renforcer davantage l'état de droit et veiller au strict respect par tous de lois et règlements. Pour pouvoir s'en relâcher, notre programme de reconstruction par les cinq chantiers de la République. Et il faudra enclencher une réforme en profondeur du système financier par la création de marchés de capitaux susceptibles de financer les investissements productifs de long terme.
Ça, il est Balanga, 51 ans après, quel bilan pouvons-nous dresser de la marche d'ailleurs des fils sur le plan politique, économique et social? La sécurité des États qui était dissatisfait des progrès réalisés sur les 3 plans que je viens d'évoquer.
51 ans, c'est beaucoup en ce qui concerne la démarche d'un pays. Madame, nous venons de trop loin. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, autant les rater, n'est-ce pas? Ces ratés-là nous ont conduit à des guerres, des trucs variés. Mais ils cassent par ces pas-là, on reconnaît un peu ça. Alors aujourd'hui, après 51 ans, nous sommes aujourd'hui à l'an 1 du 2 de 51. Le plan 51 a pris fin à 30 juin 2010, et aujourd'hui, le 1er juillet 2011, nous sommes à la première année du second septentenaire, n'est-ce pas, madame? Alors, nous devons faire une étude entre nous. Nous devons nous être appelés tous. J'ai aimé la fois passée, le général Panoumé, comme le général au septentenaire, avait lancé 3 questions à tout le monde. Première question, d'où venons-nous? Deuxième question, où sommes-nous? Troisième question, où allons-nous? Donc, aujourd'hui, nous prenons un peu de public à la veille des élections réelles, a fait le bilan national. Le président de l'État a parlé de tous ses faits au pays. Moi, je dirais aussi que chaque gouverneur, là où il est, que le ministre de l'Intérieur puisse convoquer tous les gouverneurs, et puis le gouverneur de l'État, de ça, pour que chacun fasse l'état de lieu de sa province. Gardez-vous fait pendant 5 ans, vous qui êtes gouverneur de X province, de X de Y province. Vous comprenez, madame? Alors, nous disons, c'est qu'il y a beaucoup à faire, hein, et c'est pour ça que nous ne voulons plus qu'il y ait de la guerre dans ce pays, parce que les guerres ont détruit le tissu économique. Je vous parle par exemple de la question qui n'existe plus. Il y a des entreprises qui n'existent plus, non. Il y a des chômages, etc. Alors nous disons, faisons un effort pour que chacun de nous mette la main à la pâte afin que les mérites soient pour tous.
Alors, ça y est, où en sommes-nous? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce que la RDC a progressé? Est-ce que la RDC a régressé? Est-ce que c'est le statu quo?
Moi, je suis journaliste. Je fais tellement d'analyses et je dis que tant bien que mal, ça va quand même par rapport à zéro. Vous comprenez, madame, hein? Le pays a été vraiment mis dans le sac. Et aujourd'hui, petit à petit, c'est comme un malade de caractère, hein? Avant de se lever sur les lits, après avoir attrapé le thérapeutique, il va commencer à s'asseoir. Il va commencer à tendre la main pour donner un petit thé, et après il va se mettre debout, il va faire le premier pas jusqu'à trouver la santé. Donc, la démarche est bilan, mais je suis confiant en la vie de mon pays et je dis que d'ici là, ça va aller quand même. Et nous réussissons de revenir en arrière avec des coups. La démocratie, madame, la démocratie, c'est les coups du voisin. La démocratie, c'est la condition pour le positif. La démocratie, c'est l'évolution du temps. Vous comprenez, madame? Alors, je suis content, je crois que ça va aller.
Alors, Fidel Moussango, quelle sens vous donnez à cet anniversaire?
Moi, je suis malheureux de constater que dans ce pays, on fait semblant de vouloir réenchanter la boussole. D'abord, sur le plan de l'organisation de cette fête, il s'agit de la fête de l'indépendance. Donc, l'indépendance est un événement d'abord politique. C'est le jour où les Congolais sont devenus indépendants vis-à-vis des Belges. Alors, je suis désolé de voir que le président de la République, via le protocole d'État, revoit un défilé au Mont Salambashi où toutes les autorités se rencontrent. D'abord, sur le plan d'abord financier, c'est une perte énorme. On aurait pu dire le président va nous lâcher, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement provincial, c'est mon conseil, il sait avec son gouvernement provincial. Et le président de l'Assemblée va à Kisangani, le président du Sénat va à Bukavu, les vice-présidents, toutes les 11 provinces, il y aurait des autorités nationales qui vont tout monter l'unité du pays. Et il y a des défilés pour ça. Et alors, le discours du chef de l'État, il n'est pas un discours bizarre, parce que le bilan est largement négatif, en dessous des euros. Le discours devait être un discours politique. Il fallait que le président rappelle à ceux qui sont nés après l'indépendance, dont lui-même par exemple, et beaucoup de gens. Et quels sont les Congolais, comment le Congo a pris son indépendance? Et il devait le faire en tirant par exemple des survivants. Nous avons Marcel Dissoutureau, président du CRE à table ronde, le tout premier ministre du commerce extérieur, il vit encore. Albert Kalonji, président du ministère Kalonji, il est à table ronde. Ceux qui sont morts seraient représentés par leurs enfants. Et là, le président, c'est là un peu au cours d'un repas, au cours du discours, voilà, qui vient dans ses survivants, et puis leurs enfants, les papas des Katabougou, des Bolia, des Bolikango, tous les pères des indépendances. Et il fait un discours, il rappelle comment l'indépendance a commencé avec les événements du 4 janvier, comment la table ronde a été faite, comment les Congolais ont arraché l'indépendance. Mais là, il rappelle le processus démocratique. Que entre 65, il y avait la démocratie, il y avait des partis politiques, il y avait des troubles, mais parce qu'il y avait immature, tout le parti côté des parcours mûrs, et puis il y avait les ingérences extérieures, surtout la Belgique, où on venait ces jeunes affaires, la sécession Katangaise, tout ça, c'est ce qu'il devait rappeler. Et il dit, voilà comment nous avons obtenu l'indépendance. Pour que la jeunesse connaisse la tienne, on est venu. Et rappeler son cas. Moi, je suis né quand mon père était maquisard à Iwabora, parce qu'il s'était révolté contre l'illégitimité de tout ça. Je viens rappeler parce qu'il est victime lui-même. Et son père, comment il s'est battu. Voilà le discours politique. Alors, le bilan, son bilan, lui, il n'a qu'à le faire après parce que nous sommes dans une période de suspect pré-campagne. Il fait son bilan en tant que candidat. Ça, c'est après. Mais pas le jour de l'indépendance. Aujourd'hui, qui veut-il vanter aujourd'hui? Nous sommes en dessous. En passant, on revient au niveau le plus élevé que le Canada, que la Corée du Sud, que l'Afrique du Sud. Le Sud-Africain venait se soigner à l'hôpital de l'Israël. Mais là, c'est l'inverse. Oui. Alors donc, il faut éviter de faire le bilan du terrorisme.
Alors, c'est une manifestation ratée pour vous. Okay.
Pour le fait pour moi, parce qu'il n'est pas senti la tête. Vous allez voir la facture qu'ils vont présenter. Ils vont encore saigner à blanc le trésor public avec les déplacements qui ont été délits par l'ambassade.
Clément Mangoubou, dites-nous comment cet anniversaire s'est fêté dans la province orientale.
Oui, dans la province orientale, cette fête a été célébrée dans la résignation et un peu la morosité parce que tout le monde ici qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de moyens pour pouvoir traiter, offrir quelque chose à manger aux enfants comme il faut, acheter une bière comme il faut. Alors ça fait que les gens sont restés dans la résignation, dans la morosité. Mais qu'à cela ne tienne, la lecture que j'ai faite est que après deux décennies de stagnation et de perturbation des troubles même, le Congo commence à prendre quand même de l'envol. Parce que après cinq ans, on a senti que le gouvernement était déjà long pour la reconstruction, des jalons pour la démocratisation effective du pays, et que les choses, certainement, vont aller pour le mieux demain.
Saïlène Balanga, quels pourraient être les défis pour les prochaines années?
Nous espérons qu'avec les élections qui viennent, il y aura des gouverneurs responsables qui seront soucieux de sortir de la propriété. Mon collègue tout à l'heure a dit que c'est sale, c'est vraiment qu'elle dit, hein. Un collègue qui travaille dans le FAC qui a constaté que c'est sale. Et nous disons que prochainement, à la fin de la République, il faudrait, comme tu dis, des concitoyens qui ont une situation comme ça de pouvoir, et prennent en charge l'État et fassent quelque chose pour la République. Nous aider à dire, aimer le Congo, aimer le Congo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la bonne gouvernance. On accepte pour diriger une entité, pour diriger un désert, pour diriger une entreprise. Ce n'est pas votre entreprise, ce n'est pas votre entité, ce n'est pas c'est pour la nation. Alors faites un bon travail pour que nous quittons le négatif français à 10-0. Je serai tolérant pour dire non, même si on dit 200, vous allez voir que nous n'avons rien de tout ça, mais quand même la paix qui est là, la paix qui a permis que certaines provinces puissent se développer la tête. Et c'est pas tellement zéro, je crois que, à tout ça, on peut applaudir les boulevards. Et le défi, le président de l'État économique, le défi sont nombreux. Et on doit faire un effort conjugué en communion, sans rien, sans jalousie, en mettant la République du Congo au centre de notre occupation. Sans donc passer, il faut bien travailler. Comment on dit la corruption? La corruption, madame, un jour, aujourd'hui, j'étais directeur du personnel à Zari Ingénierie et nous avons construit l'hôpital général de Kisangani. À l'époque, je m'occupais d'engager les ouvriers. Il y a un frère glacier qui est venu avec une chèvre, avec une banane, pour me donner en fait de s'engager. On dit mais non, si vous êtes équilibré, vous êtes apte, si vous êtes capable, ça ne vous plaît pas, vous êtes compétent. Je vous engage sans que vous me donniez la chèvre ni la sauce. Alors, cette bande nous a été tous. Pourquoi cela en fait la corruption?
Et donc, il faut avoir la pêche qui sauce.
N'est-ce pas, madame? On n'aide pas les individus, on aide la nation.
Kigalou, pour vous, le bilan est largement négatif. Alors, quels sont ces défis que les dirigeants congolais doivent réaliser pour les années qui viennent?
D'abord, il faut accélérer la décentralisation effective. Donner aux provinces les moyens de leur politique. Permettre aux provinces de retirer à la source, pas 40%, 60% des recettes réalisées. Et là, les provinces, parce que les assemblées provinciales auront des moyens pour même curer les caniveaux, même construire, donner aux provinces la possibilité de signer des contrats commerciaux avec des entreprises étrangères ou entreprises locales. Pardon, parce que ici, on a l'impression qu'il y a un Qatarin qui a des questions. Elle, la province de la tourisme, c'est le Manima, parce qu'il y a moins d'habitants. Il y a beaucoup de ressources. Mais le gouvernement n'a pas
les moyens sont en tout cas pas les moyens. Ils doivent venir ici nous mendier et. Je donne un exemple, ça détient beaucoup de gouvernements. Quand ils viennent ici chercher la rétrocession, s'ils doivent chercher 5 milliards de francs congolais, on lui dit on vous donne 3 milliards et demi, vous venez pour 5 milliards. C'est ça, la fameuse rétrocession qui tue l'intérieur. Il faut donc accélérer la décentralisation. Ça va permettre aux gouverneurs de province d'avoir les moyens de critiquer donc les recettes et les produits plus et de changer les choses. Moi je reviens de Kizi, j'ai fait la paix de la Rosizi. L'État n'existe plus là-bas. Ce sont les Congolais qui débrouillent eux-mêmes. L'État n'existe plus. On ne voit pas à partir même de.
Il n'y a aucune autorité là-bas.
Elles sont là, mais elles font quoi? Elles n'ont pas les moyens pour faire sentir la présence de l'État. Ça, c'est un, la décentralisation. Deux, il faut mettre ça à l'impunité. Mais pas se contenter de petits poissons. Et les gros poissons ici, ceux qui détournent les sols de militaires pour l'Est, on les connaît. Les ministres qui signent des contrats léonins, on les connaît. Les PDG qui signent des contrats, on les connaît. Il faut commencer par sanctionner. D'abord, ça, on va maintenant installer la peur. La sagesse commence par la peur. La peur du cachot, la peur de la justice. Troisième élément, il faut maintenant restaurer la force de l'État sur le plan national, international, politique. Il faut restaurer la diplomatie. Mettre des gens capables de l'époque, des compétents. Il faut mettre des gens capables de mettre sa cousine, sa belle-sœur, parce qu'il y a un poste de responsabilité en disant l'opération et tout. On vous donne 10 000 dollars, vous mettez plus de 10 sur 3 000. Donc, voilà ce qu'il y a là-bas. L'impunité, la décentralisation, et surtout, répondre à l'État dans ses attributs de souveraineté nationale et internationale.
Clément, un mot sur les défis à relever.
Je pense qu'il faut que les Congolais reprennent conscience de sa situation et qu'ils disent qu'il faut aller de l'avant. Il faut améliorer les choses, il faut améliorer les conditions d'existence, il faut transformer le pays. Pour cela, il faut j'insiste sur les profils que l'homme qui va diriger, j'insiste sur la bonne gouvernance et j'insiste aussi sur le fait qu'on doit avoir une vision. On ne doit pas seulement venir au pouvoir pour venir au pouvoir, mais on doit avoir une vision. Et on doit savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut projeter pour le lendemain.
Merci, je vais vous demander la parole. Ça y est, en 30 secondes.
Oui, en 30 secondes, madame, mon compère, je crois, a dit que le gouverneur vient de s'amender. Un gouverneur responsable ne peut pas venir de s'amender. Parce que toutes les raisons, comme l'a dit le ministre, toutes les raisons sont issues. Le gouverneur doit bouger le ménage. Le gouverneur doit payer. Le gouverneur doit circuler partout pour avoir le tas de vie de sa province. Il doit venir manger, il y a l'argent partout, mais à condition qu'on fasse un bon travail.
Merci, ça y est, opération de révision du fichier électoral, c'est notre deuxième thème de ce soir. La CENI vient d'accorder 10 jours de plus à 6 provinces, il s'agit du Nord et du Kivu, c'est la province orientale de Bondombo, de l'Équateur et du Kassai oriental. Pour ce qui est de la ville province de Kinshasa, la CENI souligne que ça fera l'objet d'un examen et d'une discussion ultérieure. La CENI profite de l'occasion pour inviter les forces vives de ces 6 provinces à s'impliquer activement dans la sensibilisation des populations. Sur le fait qu'à l'issue de ces 10 jours, il n'y aura plus de prolongation. Mais pourquoi cette prolongation? La réponse avec le rapporteur adjoint de la CENI, Laurent Daï.
Après avoir effectué une évaluation de l'ensemble des opérations dans les 6 provinces, le bureau de la CENI a noté que certains centres ont été déployés avec retard. D'autres ont enregistré un arrêt significatif des opérations en raison des problèmes techniques trouvés. D'autres encore ont bénéficié d'une délocalisation tardive. Pour toutes ces raisons, et dans le souci d'avoir un fichier électoral inclusif et représentatif, le bureau de la CENI a décidé d'accorder à tous ces centres d'inscription de ces 6 provinces un délai supplémentaire de 10 jours allant du 1er juillet au 10 juillet 2011 à 17h06. À l'issue de ces 10 jours, tous les centres d'inscription de ces 6 provinces seront définitivement fermés et qu'il n'y aura ni distribution de jetons ni aucune autre prolongation.
Fidèle Moustangou, je rappelle que vous êtes coordinateur du journal Le Star, un quotidien qui paraît à Kinshasa. 10 jours de plus pour les opérations de révision du fichier électoral. dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, provinces orientales, Kasaï oriental, Équateur, Bandundu aussi. Alors, est-ce que 10 jours c'est suffisant pour que la CENI atteigne les chiffres attendus?
Non, c'est pas un gros problème de ça que la CENI est en train de contourner. C'est lequel? C'est d'abord cette tricherie qu'on a dénoncée au Katanga avec l'enrôlement des enfants mineurs. La CENI était de contourner sans se rendre compte que c'est déjà un motif de contestation post-électorale qui peut mener à une déclaration. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que on donne les chiffres faramineux, comme si la province du Katanga était la province la plus peuplée. Ce qui est faux. Il n'a jamais été la province, pour le moment. Deux, attention, c'est la province dont est originaire le président de la République. Donc, dans le subconscient national et international, Kabila avait quitté. Chez lui. Et bien sûr, c'est un motif sérieux de contestation post-électorale qui peut nous amener à une situation de l'Ouest comme en Côte d'Ivoire. Alors maintenant, il faut d'abord évacuer ce doute de tricherie. Dire, nous allons refaire l'enrôlement au Nord Katanga où on a compté 30% d'enfants mineurs enrôlés. Il faut évacuer ce doute. Deux, il faut voir, est-ce qu'on a réellement atteint les chiffres attendus dans quel province? On est de 10, pour le moment, c'est 30.
Est-ce que ça n'aura pas une incidence sur le calendrier électoral?
Madame, je préfère soigner le cancer de mon enfant, même pendant 5 ans, au lieu de dire non, je sais de ce qu'il est, il peut mourir après. Parce que, attention, on vient de lui dire ça en Côte d'Ivoire. Le sang coulait, le sang continue à couler par l'orgueil de certains dirigeants. Ici, maintenant, ils sont mis l'orgueil de côté, ils sont dit, nous voulons avoir des élections calmes et des élections non contestées. Déjà, il y a une contestation au niveau de la province dont est originaire le président de la République. Alors, on vous dit, attention, et les autres mettent ça à côté, ils vont sur le vestiaire, ah ben, nous n'avons pas dit, parce que j'ai eu. Et il faut donc évacuer ce doute, évacuer cette suspicion de tricherie déjà prononcée. Ça fait bien mal. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que il y a une sorte de lenteur dans les machines. J'ai vécu moi-même quand j'étais un peu enrôlé, ça m'a pris 30 minutes. Il y a une lenteur. Et puis, est-ce que les agents commis à cette tâche ont été payés?
Les agents ont été payés. Le vice-président de la CENI.
C'est lui qui le dit. Mais moi, je sais qu'il y a des points où il faut payer 1000 francs. Oh, vous n'allez pas demander à un Congolais qui habite ici 1000 francs. 1000 francs, c'était un repas de toute une famille à payer. 1000 francs. Je viens de là. J'étais à Fizi, Barak, Traouville, Kamagnol. J'étais toute la plaine jusqu'à la frontière avec le Katanga. Puis je l'ai envoyé au président Kabila. Là où son père a fait un automatique, je viens là. Alors, 1000 francs là-bas, c'est toute une fortune. Puisque même ici, hein, moi je connais des gens, des familles qui n'ont pas 1000 francs pour manger. Et quand ils ont 1000 francs, ils mangent. Alors, maintenant, vous demandez 1000 francs. Ça, ça, ils doivent le savoir parce que nous, la presse, nous dénonçons. Mais il faut quand même essayer de dire non, là où il y a eu des problèmes, il faut qu'il soit à l'écoute des médias, des partis politiques. Il y a le leader qui prépare un site une fois demain, après demain, les barcelonistes. Et les motifs qu'ils avancent, attention, c'est des motifs sérieux, preuve à l'appui. Donc, l'enrôlement de mineurs au Katanga, l'alentour de machines,
par rapport à cette histoire des mineurs au Katanga, une enquête est en cours.
Oh,
on attend les résultats de l'enquête.
Madame, la seule solution, comme on dit en droit, frappe au mia corrupti, la fraude corrompt tout, on devrait annuler et recommencer au Nord Katanga. Si on dit l'enquête, qui s'est appelé? Et c'est une façon de conclure la question. Quand il y a une fraude, moi je suis ancien enseignant, pas un pampi.
Ça y est, Balanga, vous êtes éditeur, directeur, responsable du journal La Tropo, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Quel bilan vous dressez des opérations de révision du système électoral?
Je félicite d'abord les dirigeants de la CENI, et parce qu'ils sont tous communicateurs, hein, enfin, tous les présents qui parlent, parce que c'est vraiment juste, ils vont à dire vraiment que, par exemple, au niveau des lignes, voilà, ici, il y a 61%. Mais les gens ne sont pas tellement.
Ah, surtout à Kinshasa, les gens ne sont pas très motivés.
Ils disent que, voilà, on va voir. Vous comprenez? Alors, je dis, le problème de la révision du fichier électoral concerne tout le monde. Et les politiques et la justice civile, même les journalistes, ne sont pas motivés par ça.
Et si les gens ne veulent pas s'enrôler pour des raisons qui leur sont propres, nous leur disons de s'enrôler. Ce sont les souverains primaires. C'est la base qui a le but rouge qui doit sanctionner ceux qui n'ont rien fait pendant les 5 ans qui viennent passer. Ils doivent s'enrôler pour avoir un document juridique. Parce qu'on dit que la carte d'enrôlement, ça fait office de la d'identité. Et il doit avoir votre d'identité et la paix de la vraiment, je vais m'enrôler parce que j'étais déçu par le comportement de tel député, de tel sénateur ou de tel autre responsable. Vous comprenez? Alors, lorsque j'ai suivi hier le conseil de Jolie, vice-président de la CENI, ici que vous, à l'OCAPI, il a dit que le processus de la maison de l'UPC électorale est situé à trois niveaux. Il y a le premier palier, hein, le premier pilier, c'est le pilier politique. Il faudrait que les politiques puissent prendre ça en charge pour sensibiliser. C'est des choses aussi le cas devant les gouverneurs. Chaque gouverneur qui, lui, s'il met toute l'entité, les districts, les hommes, pour rassembler, pour faire passer le message. Enrôlez-vous, c'est pour votre bien. Si vous ne vous enrôlez pas, demain, vous n'aurez aucun député. Et à ce moment-là, à qui la faute? Non, maintenant, il y a les piliers politiques, il y a les piliers techniques, il y a des problèmes au niveau technique. Et le président nous a dit qu'on cherche des moyens pour arranger ce problème. Donc, globalement, je crois que jusque-là, il y a 29 millions d'enrôlés sur les 31 qu'on attend. C'est quand même une grosse affaire, vous comprenez? C'est encourager. Mais rien n'empêche, avec la rallonge, je dis, vous comprenez, de l'année qui s'en allait à Bukavu et aux autres provinces, je crois que les politiques vont s'investir pour qu'on aille de l'avant et que tout le monde soit satisfait.
Simplement, Mangoubou, éditeur responsable du journal Mwangaza, la CENI vient d'accorder 10 jours de plus hein, pour la province orientale par rapport à ses opérations d'enrôlement. Comment la population a accueilli ça dans la province orientale?
Oui, la population félicite la CENI pour cette rallonge de 10 jours, même si elle n'est pas suffisante, mais elle va permettre à la CENI de parachever le travail qu'elle a commencé. Il faut noter que la CENI a bâti quand même un travail appréciable, même s'il y a eu des facteurs limitants, comme les machines défectueuses, des faillances, comme les techniciens qui étaient loin de maîtriser cette technologie, parce que mal formés, ou insuffisamment formés, ou tout simplement parachutés, mais également, il y a eu la perturbation dans le processus de paix des agents à cause de la mauvaise organisation de l'agence de transfert. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en province orientale, il y a des points où les gens ne sont pas encore payés, soit parce que l'agent n'est pas arrivé au point, ou alors parce qu'il y a encore un problème des transports de frais, donc des fonds. Donc tout ça, ça fait des problèmes. Mais de manière générale, il faut dire que la CENI a bâti un travail appréciable. Parce que nous, en province orientale, sur les 4 millions attendus, nous sommes pratiquement à 3,457,798 enrôlés. Donc vous voyez que avec la rallonge, on peut se rapprocher raisonnablement qui est attendu.
Merci, monsieur Mangoubou. Dernier thème de ce soir, dans un communiqué de presse, le ministre de la Santé publique a officiellement déclaré le 24 juin 2011 l'épidémie de choléra à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, selon le docteur Victor Mapenge Kapout. C'est à des mouvements intenses des populations par voie routière et fluviale, avec les provinces actuellement en épidémie. La ville province de Kinshasa a enregistré au 27 juin 2011 11 cas de choléra, avec deux décès. L'essentiel de se communiquer avec vous, Alain Hong.
À Kinshasa, au moins deux hommes de santé sont concernés par le choléra. Maluku avec 7 cas et Kinyabo à 4 cas. La confirmation des cas par le laboratoire a poussé, selon le ministre de la Santé, à affirmer la présence d'une épidémie de choléra dans la ville province de Kinshasa. Le ministre souligne qu'un plan de contingence est d'ores et déjà élaboré au niveau de la division provinciale de la santé. santé et que les équipes sont mobilisées pour éviter une extension de l'épidémie à d'autres zones de santé de la ville de Kinshasa. Dans une déclaration le week-end dernier, le ministre de la Santé publique a indiqué que la RDC connaît depuis le début du mois de juin 2011 une survenue anormale des cas de choléra qui ont touché la province du Bandundu, plus précisément le district sanitaire du plateau. La zone de santé de Bonobo est la plus affectée avec plus de 41 décès sur 800 cas. Le total cumulé à ce jour, selon le ministre Makwembe, est de 993 cas avec 52 décès. L'épidémie de choléra a également touché la province de l'Équateur avec une vingtaine de décès au cours de la période suspensionnée. Plusieurs zones de santé ont été affectées avec également plus de 20 décès. Victor Makwembe a annoncé que les équipes provinciales sont déjà sur les lieux pour mener la riposte et que des équipes du niveau central sont mobilisées pour aller appuyer les provinces concernées dans le contrôle de cette maladie.
Merci Alain Hirung, Saïd et Mbalanga. Comment on peut expliquer cette réapparition de l'épidémie de choléra à Kinshasa?
Madame, on dit que choléra égale maladie des mains sales. C'est grave. Un exemple simple, madame. Est-ce que les chefs de ça, vous voyez, certains des noms receveurs de l'État civil, ils se réveillent à 4 heures du matin, et je ne sais pas s'ils prennent le bain. Je ne sais pas s'ils peignent leurs cheveux, et dès qu'ils arrivent, ils travaillent jusqu'à tard. Parce qu'en principe, hein, ces gens-là, les taximens, les convoyeurs, hein, ils butent ils comptent pas en journée. Madame, moi, mon bureau se trouve sur la rue du commerce à Kinshasa. Mais allez maintenant ici, le matin, soyez à la rue du commerce, vous voyez, c'est pire. Il y a des gens, excusez-moi madame, qui tentent de pisser au pied de tout le monde. Il y a des pollutions partout. Le gouvernement a dit qu'il est fatigué pour les gays, mais je ne fais pas les sachets sur la voie publique. Il n'y a personne qui écoute. Parce qu'on ne punit pas les gens.
Mais pourquoi est-ce que le gouvernement doit se fatiguer ou il doit continuer à s'en diriger la mort?
Les gens croient que ça sera le gouvernement seul. Non, il faut le bourgmestre. Les gens doivent sensibiliser la population pour dire lavez-vous les mains. Si vous allez dans le lieu des gens, est-ce qu'il y a vraiment un lieu des gens ici, à de ça, le croissant de l'île à Gombe ou dans le quartier de Gambetti? Mais il y a des parcelles où ça pue, madame. Il y a des gens qui le matin se réveillent, ils jouent aux dames, et à côté, il y a des caniveaux qui ne sont même pas purés. Il y a des eaux qui sont devenues verdâtres. Il y a, à côté, on va le peigner, à ciel ouvert, on va le matériel voiture. Madame, qu'est-ce que tu dis ça? Le service d'hygiène dans chaque commune doit surveiller pour des militaires passer dans chaque parcelle. Là où il y a de la casse, on a plus d'amende et à ce moment-là, on va déclasser. Comment on peut devenir sale partout et à tout moment là? Bon,
merci, Saïd. C'est mon Mangoubou. La province orientale a connu aussi ce cas d'épidémie de choléra, mais cette épidémie a été arrêtée. Comment le gouvernement provincial s'y est pris?
La province orientale continue à connaître l'épidémie de choléra parce que cette épidémie est permanente tout autour du lac Albert où les gens consomment l'eau du lac, pas qu'elle soit traitée, mais aussi à Kisangani et dans sa périphérie. Nous sommes encore sous l'emprise du choléra. Bien sûr, l'épidémie tend maintenant vers la queue, même si elle est encore loin d'être supplantée. Mais je l'ai dit, on a connu 1800 cas officiels enregistrés connus. Et on a connu plus ou moins 40 ou 60 morts officiellement déclarés. Mais ceux qui sont morts chez eux, ceux qui sont morts sur la route, ceux qui sont restés au bord de la route, donc on ne comprend pas. En réalité, c'est une maladie qui provient de la misère d'une vie un peu miséreuse parce que les gens vivent dans des conditions difficiles aujourd'hui. La saleté partout, les marigots, les flaques d'eau, des poubelles. Il n'y a pas de toit aussi, des poubelles partout.
Mais qui est responsable de tout cela, Clément?
Oui.
Je dirais qui est responsable?
Lui qui est responsable. Le premier responsable, c'est la population elle-même. Parce que quand on vit dans un cadre, il faut quand même nettoyer les alentours de ce cadre-là. Il ne faut pas attendre que l'État vienne pour vous demander de balayer ou de chasser les marigots ou les flaques d'eau. Non, mais si vous habitez une maison, vous devez la nettoyer. L'État, bien sûr, une responsabilité, parce que l'État doit absolument améliorer les conditions d'existence. Donc, il ne suffit pas de dire aux gens, bon, la maladie, là, nous intervenons, mais il faut que les infrastructures suivent, il faut qu'il y ait addiction d'eau dans Kisangani et dans sa périphérie. Bien sûr, aujourd'hui, on a installé quelques ateliers pour forer l'eau. On l'a fait à Yakoussou, qui est aussi un foyer de choléra. Et dans un village à la rive gauche, dans la commune Lubunga, mais on a foré un seul puits pour une population de plus ou moins 80 000 personnes. Alors là, ça ne va pas. Donc, nous disons qu'il faut de l'eau de ménage pour nos foyers et qu'il faut de l'eau potable pour que les gens vivent bien. Il faut également que l'autorité établie renforce les mesures d'hygiène. À l'époque, il existait que c'est l'hygiène, mais on l'a fait disparaître sous notre barbe. Ça n'est pas normal. Et tout se fait comme si personne n'avait
Monsieur Témo, vous ne semblez pas être très d'accord avec Témo Mangoubou lorsqu'il dit que la population qui est responsable de cette situation.
Et madame, moi je suis pas de famille, c'est moi qui ai amené à manger à la maison. C'est moi qui ai reparti les billets avec ma femme. Je dis, parce que qu'est-ce qui est là ? Ma femme me dit, il y a ça qui porte. Nous sommes un État, nous sommes un État, madame, excusez-moi le terme. Le Congo, ça commence avec Mobutu. Nous avons réuni toutes les caractéristiques d'une république bananière. Pourquoi ? Comment voulez-vous allouer à la santé un budget de 0,05% ? À l'éducation, même chose. Moi, je suis dans l'indépendance. J'ai connu les services des jeunes qui passaient donner des conserves des produits pour ce monocyte qui sert tout ça. Je ne connaissais pas les moustiques à Bukavu, ni à Kisangani, à Sarnaby. C'est ici qu'il y avait les moustiques. Un petit peu dans le plein de la Rosizie parce qu'il y avait des marécages. J'ai appris les moustiques ici. Il y avait un service d'hygiène. Pourquoi ? Il y avait un budget. Et le budget de la commune, il y a une part pour la salubrité. C'est là où il y avait des officiers sanitaires qui passaient donner des conseils. Et pour apprendre aux gens de tirer les caniveaux. Deuxième élément, il y a l'urbanisation. Quand on construit une ville, on prévoit les caniveaux. Maintenant, quand on lotit des terrains, il n'y a pas de caniveau. Allez à Lingwala, on a loti des terrains juste en face de Palisade. Il n'y a pas de caniveau. Et où vont aller les eaux usées, les eaux domestiques. C'est un élément. Donc, sanitaire. Madame, nous risquons les épidémies éradiquées ailleurs. Résurgir au Congo parce que nous sommes dans un territoire international. Deux, vous ne savez pas que vous devez apprendre que la peste a réapparu au Congo. Parce qu'il n'y a rien pour la santé. Makonde peut parler, faire des discours, de communiquer. Il doit se battre pour qu'à l'Assemblée, on donne des moyens au ministère de la Santé pour alimenter les hôpitaux, pour alimenter les services d'hygiène. Et au niveau de la commune, ça commence à la commune. Mais ici, les budgets mal faits, on grossit le chiffre politique, on grossit le chiffre militaire et l'argent est détourné, madame.
Merci, Fidel Moussangou. Merci à vous, chers confrères, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Alain Gould, Samuel Kacha, qui ont réalisé et préparé pour vous cette émission. La technique était assurée par Mimi Kindou, Micro, Télé-Écouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radio-okapi.net. Bon coup de programme et bon week-end à tous. I'm going to go to the next one.